Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Graphite 94.9 et Graphite.net en ligne. Je suis Stéphane, je suis en studio avec Swan, Alissa, Louise et Guimette. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
J'avais pas mis vos micros, mais les auditeurs, maintenant que vous riez fort, je les ai mis, mais avant, quand vous avez dit bonjour, je les avais pas mis. Bien, donc cet après-midi, on vous présente les projets menés dans le cadre du cours IS03 à l'UTC. Alors, c'est un cours de low-techisation. Low-techiser, ça veut dire prendre un objet, un service qui existe ou une idée de quelque chose que l'on est en train de concevoir et chercher comment le rendre plus vertueux, on va dire, d'un point de vue environnemental et d'un point de vue social. Alors habituellement, le levier principal de l'ingénieur qui conçoit, c'est l'optimisation. Il calcule des trucs selon différents paramètres, il cherche à améliorer ses paramètres, par exemple la vitesse ou la consommation énergétique d'un véhicule. Lorsque l'on fait de la low-techisation, eh bien, on va essayer d'adresser d'autres leviers, comme l'imagination pour questionner les modes de vie, ou l'alerte pour interroger la dimension politique des projets que l'on réalise. Le cours s'inscrit en particulier dans le cadre du numérique, on va le voir avec le projet d'aujourd'hui. Donc ce projet s'appelle SOS Capteur. Il s'agit d'imaginer comment mettre en relation des personnes qui recherchent des capteurs de mesures environnementales avec des personnes eh bien, qui offrent ces capteurs. Mais donc, je vais donner la parole à Alissa pour la présentation des grands principes de ce projet. Alissa, c'est à toi.
Bonjour à tous. Nous allons vous présenter notre projet SOS Capteur. En fait, il s'agit d'un portail qui permet de mettre en commun des capteurs complexes et coûteux pour la mesure environnementale. On va vous montrer tout de suite un court extrait d'un exemple de capteur qui sera disponible sur notre portail. Il s'agit d'une vidéo proposée par le canal U du CNRS sur la chaîne Terraforma, publiée en octobre 2023 et qui vous présente le fonctionnement d'une caméra hyperspectrale.
Donc ce qu'on peut voir, c'est une caméra qui est relativement petite par rapport à l'état de l'art, vu qu'elle pèse moins de 500 grammes. D'un point de vue mécanique et conceptuel, bah, c'est assez simple. Ce qu'on peut voir, c'est du coup ce baffle qui empêche la lumière de pénétrer par tous les côtés pour limiter les reflets. Et par contre, le petit composant qu'on peut voir sur les images, c'est le composant principal qui permet de filtrer la lumière et donc d'obtenir une image hyperspectrale qui va présenter donc une image de la scène observée à plusieurs longueurs d'onde spécifiques. C'est ça qui va nous donner de l'information sur les objets scientifiques qu'on veut observer, que ce soit une rivière turbide en cas de précipitation ou bien un couvert de végétation dont on veut obtenir certaines propriétés physiques.
Notre portail, il s'adresse à des utilisateurs variés. Premièrement, les acteurs du monde académique, donc les chercheurs, les chercheuses, les établissements publics, les associations, les entreprises, les bureaux d'études. Les objectifs principaux du projet sont les suivants. Premièrement, on va permettre le prêt de capteurs aux utilisateurs souhaitant étudier un paramètre environnemental. On veut offrir de l'aide aux utilisateurs qui n'ont pas les capacités d'utiliser les capteurs ou bien d'exploiter leurs données. Et on veut mettre en relation les utilisateurs sur les thématiques environnementales, notamment par un système de chat. Ce portail, il a été réfléchi dans le cadre du projet Terraforma, qui est un projet du CNRS. Nous allons maintenant écouter Virginie Girard, qui est responsable du projet Terraforma, qui va se présenter et présenter le projet.
Bonjour, je suis Virginie Girard, chef de projet Terraforma, un équipe X+ qui a été construit dans le cadre du programme d'investissement d'avenir. C'est un projet qui vise à accompagner les territoires dans leur transition face aux défis climatiques et écologiques, notamment à travers la recherche partenariale. On travaille également donc à augmenter la capacité des observatoires scientifiques et qui existent pour mieux appréhender donc les processus qui vont relier le vivant et le non-vivant. On va travailler donc à développer de nouveaux capteurs dits intelligents, notamment pour des aspects de miniaturisation, communicants. On va également faciliter leur transmission de données grâce à l'Internet des objets avec des protocoles tels que le LoRa. Et puis enfin, on va faire en sorte d'intégrer au plus près de la conception et l'idéation des capteurs l'ensemble de la société gérée, les non-académiques, pour mieux partager les enjeux autour de ces défis.
Je vais maintenant laisser la parole à Swan qui va vous présenter l'état de l'art de notre projet.
Alors, nous avons choisi un texte de l'état de l'art à vous présenter. Et donc, c'est un article qui a été rédigé par Comet, qui date du 12 décembre 2022 et qui traite, intitulé « Intégrer les enjeux environnementaux à la conduite de la recherche, une responsabilité éthique ». Cet article est disponible sur le site de Comet, mais Comet, c'est le comité d'éthique du CNRS. Il a été saisi par celui-ci afin de rédiger un avis sur l'importance de considérer les enjeux environnementaux à la recherche de la même manière que le respect de la personne humaine ou l'animal d'expérimentation avait été intégré auparavant à la recherche. Suite à leur délibération, Comet a décidé d'envisager différents points de vigilance pour les futurs travaux de recherche. Alors tout d'abord, le plus important, c'est d'ouvrir le débat au sein même du monde de la recherche et de considérer les impacts environnementaux d'une manière centrale au sein de la recherche. Enfin, ce débat doit être équipé autant que possible d'outils, de méthodologies et plus généralement d'un tas théorique scientifique solide pour le partager au monde de la recherche dans sa globalité. Il est également important de ne pas considérer uniquement les gaz à effet de serre, mais également les impacts sur la biosphère afin de ne pas se faire avoir par l'effet tunnel. Il faut également réfléchir aux usages qui pourront être faits des connaissances liées à la recherche, notamment leur transformation en innovation, et sur la manière dont ces derniers peuvent répondre aux problèmes que la société rencontre, ou au contraire les pérenniser, voire les aggraver. Cependant, le Comet invite en outre à aborder l'impact environnemental de la recherche dans une perspective de proportionnalité. L'impact environnemental négatif peut être mis en balance avec ce que cette recherche peut ailleurs apporter de positif à l'environnement lui-même ou à d'autres valeurs, que ce soit la santé humaine, la capacité des jeunes à travailler en réseau, à la géopolitique ou à la science en général. Ce texte nous a donc permis de réfléchir, de nous questionner sur les effets potentiellement néfastes sur l'environnement de la recherche, afin de mieux nous positionner quant à notre sujet. Et cela démontre l'intérêt de créer des capteurs durables, conviviaux et à faible impact sur l'environnement. Donc maintenant, ça sera à Lisa de nouveau de parler d'une histoire.
Un outil principal sur lequel repose notre projet est le logiciel de création d'annonces. Les utilisateurs du portail y vont poster des annonces en utilisant des filtres tels que le type de leur demande, par exemple la demande d'un capteur précis, le prêt de capteur ou la demande de création d'un capteur. Ils vont également utiliser des filtres tels que pouvoir taguer des utilisateurs associés au projet, entrer leur disponibilité ainsi que de la documentation associée. Ainsi, le logiciel y permet de mettre en relation les utilisateurs détenant des capteurs pour étudier un paramètre précis et les différents projets le nécessitant. On peut voir cela dans une petite histoire de notre maquettage, Salomé et le parc naturel. Dans cette histoire, Salomé, c'est une employée d'un parc naturel régional et elle constate une augmentation du nombre d'algues invasives dans les ruisseaux de son parc. Elle souhaite suivre la teneur en nitrate et phosphate de l'eau de ses ruisseaux pendant 6 mois afin d'en observer son évolution. Je vais vous lire un petit extrait d'une histoire. Elle poste une annonce sur SOS Capteur en indiquant la durée de son besoin et ses compétences techniques. Salomé prend contact avec Corinne, une chercheuse disposant d'un capteur adapté. Salomé reçoit le capteur une semaine plus tard avec une fiche descriptive créée par Corinne expliquant son fonctionnement. À partir de cette histoire, nous avons fait une analyse des valeurs, des leviers et des tensions qui sont 3 outils nécessaires à la définition de la lotéquisation. Je vais vous présenter 2 valeurs du logiciel de création d'annonces. Premièrement, la convivialité et plus précisément le partage. Le logiciel de création d'annonces y permet de mettre en commun des capteurs, ce qui va favoriser la recherche participative. Par exemple ici, Salomé et Corinne peuvent collaborer grâce à l'annonce de Salomé, ce qui permet un échange de connaissances et de ressources. Une autre valeur importante de la convivialité, c'est l'autonomie. Donc le logiciel de création d'annonces, il va permettre aux utilisateurs du portail de publier et de répondre à des annonces de manière autonome, sans dépendre d'une autorité centrale. Ici, Salomé, elle peut directement poster son annonce et entrer en contact avec Corinne sans avoir besoin d'un intermédiaire. Je vais maintenant donner la parole à Louise qui va vous présenter une autre histoire du maquettage.
Donc des différents produits que nous avons définis, nous retenons aussi dans cette présentation la page de formation. Cette page, elle sert à proposer des formations en présentiel, en visioconférence ou en format vidéo. Effectivement, ces formations, elles peuvent être accessibles sous différents médias en fonction de l'accessibilité des capteurs. Pour des capteurs plus facilement accessibles, une vidéo serait largement suffisante pour en comprendre le fonctionnement. Les vidéos, elles peuvent donc être visualisées sur une page dédiée de notre portail où il est également possible de voir les différentes dates de formation. Ainsi, il est possible pour tous les utilisateurs de se former, car ces ressources sont en libre accès. Dans l'histoire de Gabriel, le chercheur surchargé, on met en avant une situation où le capteur est en demande excessive et requiert un niveau d'expertise supérieur à la moyenne. Ce capteur est un drone de captation du CO2, et pour cela, il va proposer un créneau dans l'année pour former les personnes qui sont intéressées au pilotage de son drone. Donc, je vous montre juste un petit extrait de l'histoire. Ces formations d'une journée permettent de rendre autonomes les demandeurs de capteurs sur son utilisation. Gabriel pourra continuer ses propres recherches et les utilisateurs auront ainsi les connaissances techniques. On comprend alors que la page de formation permet de mettre en relation ceux qui possèdent des capteurs avec ceux qui souhaiteraient les utiliser, mais qui n'ont pas les connaissances techniques suffisantes sur le capteur. Une valeur que l'on peut associer à cette histoire est la convivialité sous l'angle du partage et de l'autonomie. En effet, le portail permet de développer la collaboration entre les utilisateurs et les formations permettent de donner des compétences techniques sur les capteurs au plus grand nombre. Pour un levier, on peut appliquer la branche imaginée dans soins, où le système de formation fournit des gardes d'utilisation, ce qui permet une utilisation appropriée et respectueuse de l'environnement. Ici, Gabriel propose de former lui-même les utilisateurs avant de leur prêter le capteur, ce qui lui permet d'expliquer aux utilisateurs comment l'utiliser correctement pour minimiser l'impact environnemental. Je vais maintenant donner la parole à Guimette, qui va vous présenter l'auto-évaluation.
En effet, suite au maquettage, nous avons, grâce à différents outils, pu évaluer qualitativement l'impact de notre projet, donc l'impact sur l'environnement, mais aussi sur toutes les personnes qui seront confrontées à notre projet. Nous allons voir plus précisément l'outil Diamant, qui nous pousse à approfondir sur les liens entre la société et notre projet. Donc cet outil a été inspiré par les travaux de Jared Diamond dans son livre « Effondrement », publié en 2005. Ce diamant, il se découpe en différentes parties. Il y a d'abord l'impact, la résilience, la coopération, la compétition, mais aussi la réaction, ce qui nous permet d'évaluer les impacts positifs et négatifs de ces différentes catégories. En voici quelques-uns qui nous paraissaient intéressants. Au niveau de l'impact, SOS Capteur permet une meilleure compréhension de la biodiversité et du climat, ce qui permet une production de nouvelles solutions et de recentrer le débat public sur les mesures environnementales. Cependant, ces capteurs sont dans la nature, ce qui crée une pollution visuelle, sonore, thermique, qui peut perturber la biodiversité. Au niveau de la résilience, les capteurs prennent souvent en compte un seul paramètre. Or, on sait que les problèmes environnementaux sont complexes, ainsi une vision systémique de l'environnement est nécessaire. Mais les capteurs permettent de créer des données qui peuvent contribuer à l'adaptation des sociétés face aux impacts environnementaux, déjà visibles, sur des thématiques variées telles que le logement, la nourriture ou encore le travail. Au niveau de la coopération, SOS Capteur n'est malheureusement pas accessible à l'entièreté de la population, mais cela permet de créer un réseau de chercheurs qui se partagent connaissances et outils qui favorisent une meilleure coopération. Le portail, il apporte une aide aux associations qui œuvrent à la protection de l'environnement et des communautés. Et enfin, il facilite la recherche participative en créant des duos chercheurs et associations, l'un possédant les connaissances scientifiques et le deuxième les connaissances du terrain. Je vais rendre la parole à Louise qui va faire une rapide conclusion.
Donc pour conclure, notre projet, il permet de mettre en relation des chercheurs et d'autres utilisateurs afin d'échanger leurs capteurs et permettre une meilleure compréhension de l'environnement. Pour cela, notre portail propose plusieurs produits, comme la page de formation et le système de création d'annonces qu'on a pu développer, mais il existe également d'autres produits, comme Captopedia. Il est utile de mentionner que notre projet a des points de vigilance. Effectivement, comme l'a dit Guimette, les capteurs peuvent provoquer une pollution sonore et lumineuse, ou même une pollution pendant l'extraction des terres rares. Mais nous considérons que les bénéfices apportés par notre projet peuvent surpasser ces points-là et resteraient bénéfiques à l'entièreté de la communauté.
Merci beaucoup pour votre présentation donc, du projet SOS Capteur réalisé dans le cadre du projet de recherche Terraforma pour lequel vous avez été appuyé, co-encadré par Virginie Girard que l'on a écouté tout à l'heure dans l'enregistrement qu'elle vous a fourni. Alors, on a parlé effectivement de capteurs, c'est-à-dire de moyens de mesurer des choses dans l'environnement pour eh bien évaluer des choses en termes de biodiversité, en termes de problématiques, j'imagine, d'eau, de pollution, etc. Et puis vous nous avez expliqué eh bien que un des objectifs de votre projet, c'était de favoriser le partage des objets eux-mêmes pour éviter leur multiplication et puis peut-être aussi d'aider à partager à leur savoir-faire pour aider les uns et les autres à l'utiliser. Alors, peut-être j'ai juste une petite question. Vous avez mentionné à un moment l'effet tunnel. Et donc le fait que, eh bien, il ne fallait pas se concentrer uniquement sur le carbone, ça me paraît assez central dans votre projet, mais peut-être que vous pouvez rappeler ce que vous entendiez par ce terme que vous avez évoqué un peu rapidement.
Alors l'effet tunnel, c'est le fait qu'on se concentre uniquement sur une donnée en oubliant toutes les autres, et dans le cas de l'écologie, celle qui est souvent utilisée, c'est le carbone, enfin c'est le dioxyde de carbone. On s'en rend notamment beaucoup compte avec toutes les pubs qu'on peut voir de greenwashing, où ils parlent uniquement en termes de carbone rejeté dans l'atmosphère par rapport à un produit, et c'est pas du tout une approche systémique, du coup il y a un manque de données globales, et on ne peut pas voir tous les autres impacts que ça peut avoir sur la biosphère ou sur toutes les autres choses en globalité.
Ouais, c'est en ça hein, qu'un projet comme le projet Terraforma, enfin ce qui est fait globalement est intéressant, c'est que eh bien, si le carbone, la question du carbone et du réchauffement climatique a pris autant d'importance, c'est aussi parce que c'est une des choses aujourd'hui qu'on arrive à peu près correctement à mesurer, et donc en quelque sorte bah, ça permet de rallier un certain nombre de personnes à la cause, puisqu'on est capable de mesurer, d'objectiver, alors que pour d'autres éléments, c'est parfois un peu plus complexe, d'où cette notion de, enfin, d'avoir d'autres capteurs. Merci à vous de cette précision. Alors peut-être j'ai une question de Pauline qui veut savoir si, donc là vous avez parlé du partage des capteurs, mais est-ce que vous avez évoqué dans votre projet ou dans un des projets complémentaires que vous avez cité, la question du partage également des données, c'est-à-dire que les données qui vont être produites par ces capteurs, est-ce qu'elles vont être uniquement utilisables par les gens qui utilisent les capteurs, ou est-ce que eh bien en quelque sorte d'autres chercheurs peut-être dans d'autres pays, ou voilà, comment ça va être géré un petit peu?
Alors, pour l'instant, le partage de données, il est limité à notre portail. Donc, on a les données qui vont être créées par la recherche qui va être facilitée par le prêt de capteurs. Mais on a aussi des données présentes sur le portail parce qu'on a une encyclopédie qui s'appelle Captopédia qui rassemble des données sur les capteurs ou sur l'environnement et comment bien utiliser ces capteurs afin de prendre soin de l'environnement et l'étudier de manière nocive. Mais pour l'instant, le partage de données, il est limité uniquement aux utilisateurs de la plateforme. Donc bien sûr, si ces utilisateurs vont créer de la recherche et la publier, bah, elle sera éventuellement publique. Mais pour les données des capteurs eux-mêmes, elle est réservée aux chercheurs qui créent ces données-là.
Après, vas-y. Pour ce qui est de ce qui est de l'étranger, on avait décidé de garder notre projet seulement en France, mais on a parlé un peu de la licence libre du code et on s'était dit que si des personnes voulaient réutiliser le code et créer un SOS capteur mais en Belgique ou même au Canada, c'était possible, et donc ces données-là, bah, juste, ce ne seraient pas les mêmes qui ont été apportées par les chercheurs du site SOS capteur français, mais il y aurait des données qui seraient créées dans des sites internationaux.
Ok, merci de ces précisions. Peut-être une dernière question, une question d'Abel. Comment est-ce que vous avez géré la question de la répartition géographique? C'est-à-dire qu'on a bien compris le principe du prêt des capteurs, mais s'il y a quelqu'un à Lille qui veut utiliser un capteur qui n'est présent qu'à Toulouse, comment est-ce que ça se passe? Vous lui envoyez par la poste ou, est-ce que ça a été, vous avez posé un peu ces problématiques?
On y avait un peu réfléchi, et d'où l'intérêt de créer différentes antennes pour que justement ce soit français et que les déplacements restent en France. Mais donc on a conclu qu'il y avait deux grands cas, c'est si le chercheur a besoin de se déplacer, et si on a besoin de son expertise, donc c'est le chercheur qui se déplace avec son capteur. Et sinon, oui, effectivement, il faut l'envoyer par la poste ou je sais pas quel moyen. Okay.
En courrier recommandé, on se dit ça peut être pas mal.
Donc on cherchera, donc ça vous avez, voilà, il y a encore des choses... Les micros sont ouverts hein, là, donc ah oui. Quand vous parlez, tout le monde vous entend. ce que je voulais dire, c'était qu'il y avait encore des dans vos projets, évidemment, il y a encore des questions qui sont ouvertes. Il y en a une autre hein, et peut-être que on va pas y répondre, mais on pourra la laisser ouverte et peut-être que dans le cadre du projet Terraforma, probablement dans le cadre du projet Terraforma, c'est des choses qui vont également aborder, mais des choses que vous avez soulevées et puis également qui ont été rappelées par Evan également sur les questions, c'est-à-dire que eh bien on sent qu'il y a quand même une sorte de compétition, hein, tu l'as rappelé en conclusion, Louise, mais il y a une sorte de compétition entre, d'un côté, créer des nouveaux objets pour améliorer, avoir plus de données, et puis d'un autre côté, bah, le fait que ces objets, ils ont eux-mêmes un impact environnemental. Vous avez parlé de drones, on parle d'Internet des objets, on parle de choses embarquées, donc tout ça a également une conséquence sur l'environnement. Ouais, je ne sais pas si vous voulez ajouter un mot là-dessus, mais peut-être que dans votre conclusion, vous aviez déjà posé les choses et que... On n'a rien à ajouter ?
Non, ça va. Bah après, c'est un peu... c'est un peu ce qu'on a présenté dans l'état de l'art, c'est que forcément, dès qu'on va toucher à tout ce qui est numérique, dans la nature, on aura toujours des impacts qui soient plus ou moins petits. Mais on considère que pour pouvoir aller de l'avant, et peut-être, c'est peut-être une réflexion technosolutionniste, mais c'est quand même important de pouvoir écouter des données et pouvoir travailler et trouver des solutions. Et sans celle-ci, on ne voit pas comment on pourrait faire avancer les enjeux climatiques.
Ok, bah écoute, merci bien, parce que c'est effectivement une des problématiques qu'on traite dans le cours low-techisation et numérique. Hein. Dans le titre même, il y a une sorte de contradiction en quelque sorte, puisque le numérique ne peut pas être low-tech. Donc effectivement, eh bien, on va essayer de jouer sur différents paramètres entre ce que peuvent nous apporter à un moment des outils high-tech comme le numérique, ici l'appropriation des données, et en même temps les problèmes qu'ils posent eux-mêmes. Et ben, donc c'était le projet SOS Capteur que l'on présentait dans le cadre du cours Low-techisation et numérique IS03 à l'UTC. Je vais vous saluer tous les quatre. On avait donc Swan, Alissa, Louise et Guillemette. Je vous souhaite une bonne fin de journée et on dit au revoir à tout le monde. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.